Voilà, bah écoutez, c'est mon privilège ce soir de nous apporter quelques pensées sur le récit biblique de cette semaine particulière de Pâques dans la Bible. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les prendre. Et si vous ne les avez pas, je vais lire ce texte, mais on va aller à Matthieu 27. J'ai intitulé ce message ce soir « Les phénomènes surnaturels de la croix ». Les phénomènes surnaturels de la croix. Et j'aimerais qu'on se replonge dans le moment précis de la crucifixion de Jésus. Parce qu'au moment de sa mort, des choses incroyables se sont passées, et j'aimerais vous les montrer. On va lire à partir, Matthieu 27, à partir du verset 33. Et là, c'est le récit complet. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne pouvait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli ». Lama sabachthani, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Récit peut-être que vous connaissez, bien, pas très bien. Plusieurs choses intéressantes. Marc 15, 25 nous dit que Jésus était crucifié à la troisième heure, qui est donc 9 heures du matin. Marc 15, 34 nous dit que sa mort a eu lieu à la neuvième heure, à 3 heures de l'après-midi. Cela veut dire que Jésus est resté pendu, cloué sur la croix pendant 6 heures. Alors cela paraît long, mais en fait c'était court. Car la croix était conçue par les Romains pour être un supplice qui provoquerait le maximum de souffrance. Savez-vous que certains crucifiés restaient pendus, vivants, des jours? Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus est mort, et il y a eu des milliers de crucifiés par les Romains, mais lorsque Jésus est mort, 5 phénomènes surnaturels étonnants ont eu lieu, chacune avec une signification précise. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer ce soir. Vous verrez, c'est tout simplement étonnant. Et vous allez comprendre pourquoi. Premier phénomène surnaturel. Les ténèbres sont apparues. Les ténèbres sont apparues, verset 45, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Une chose très étrange s'est passée ce jour-là, à ces heures précises. À partir de la sixième heure, midi pile, alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Israël, mais à midi pile, il fait super chaud. Le soleil est au zénith. Il brille fort. Et à la sixième heure, soudainement, tous les regards se tournent vers le soleil pour voir ce qui se passait, car tout d'un coup, le ciel s'est obscurci. Et cela pendant 3 heures de temps. Quelle était la nature de cette obscurité? C'est intéressant, le mot grec pour ténèbres, skotos, décrit une obscurité profonde. Il est utilisé dans Actes 13, 11 d'un aveugle. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil, aussitôt l'obscurité, voici notre mot, et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Donc, l'obscurité était quasi totale. Certains disent, ouais, c'était une éclipse du soleil. Mais la Pâque juive était toujours célébrée lors d'une pleine lune. Et les astronomes nous disent qu'une éclipse de soleil ne peut pas avoir lieu lors d'une pleine lune. Tertullien, dans son livre Apologeticum, qui était une défense de la loi dans les premiers siècles, a dit ceci. Au moment de la mort de Christ, la lumière a quitté le soleil et la terre fut obscurcie à midi. Une merveille qui est relatée dans vos annales, qui sont préservées dans vos archives jusqu'à ce jour. Ce jour-là, mes amis, il y a eu tout simplement un miracle. Un miracle. Il y a déjà eu des miracles de ce genre. Par exemple, dans Josué 10, vous pouvez rappeler peut-être cet événement aussi étonnant. Josué 10, c'est le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoriens aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne hâta point de se coucher presque tout un jour. Regardez ces versets. Aussi dans 2 Rois 29 et 11. Dieu a fait un miracle. Voilà ce qu'il a fait. Et c'est intéressant, le verset 45 nous dit que les ténèbres étaient sur toute la terre. La moitié de la terre est toujours dans l'obscurité. L'obscurité. Donc il a obscurci l'autre moitié de la terre pour que le tout soit noir. Pourquoi? Pourquoi il y a eu ça? À cause du fait que c'était un jugement. Dieu jugeait Christ pour notre péché à ce moment-là. Joël 3,13, le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Ésaïe 13,9, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de la colère ardente du Seigneur qui réduira la terre en solitude. Et en exterminera les pécheurs, car les étoiles du ciel et leurs astres se feront plus briller de lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice. L'obscurité est toujours liée au jugement. Au jugement de Dieu. Oui, parce qu'à ce moment-là, vous voyez, lorsque Jésus, l'agneau parfait de Dieu, était crucifié, que se passait-il ? En fait, 2 Corinthiens 5:21 nous dit qu'à ce moment-là, il est devenu péché pour nous. Lui n'était pas pécheur, mais il a pris mon péché, ton péché, il les a tous pris et lui a été jugé à notre place. Donc, c'était un jugement. Ésaïe 53:4 nous dit qu'il a porté nos souffrances sur lui. Ésaïe 53:5, il s'est fait blesser pour nos péchés. Ésaïe 53:5, il a été brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53:6, j'aurais besoin d'un verre d'eau éventuellement s'il vous plaît. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Galates 3:13 dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Galates 3:13 dit qu'il a été maudit pour nous. Ça, c'est le premier phénomène miraculeux qui s'est passé, étrange, ce jour-là. Deuxième phénomène surnaturel de la croix ce jour-là. Le voile s'est déchiré. Merci Frédérico. C'est gentil. Le voile s'est déchiré. Verset 50, on est dans Matthieu 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus meurt. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est incroyable. Il y a un petit mot intéressant, et voici. Le timing précis est important. Les ténèbres sur la terre, le grand cri de Jésus, et au moment, à l'instant où Jésus meurt, à cet instant précis, déchirure de ce fameux rideau. On en parlera dans une seconde. Le voile du temple, nous dit, se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Mais de quoi s'agit-il ? Je vais vous montrer des photos, regardez. Regardez. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu voulait être adoré par ce biais. On retourne. Voilà. Et ça, c'était le tabernacle, c'était la tente où Dieu, venait pour dialoguer avec le peuple, si on veut. Une tente sacrée. C'est ici que Dieu donnait rendez-vous au peuple. Tous les sacrifices étaient offerts ici. Deuxième photo. La tente du tabernacle était à l'intérieur divisée en deux parties. Il y avait le lieu saint, vous le voyez à gauche, donc on entrait par le lieu saint, et ensuite il y avait le lieu très saint. Vous voyez que ces deux endroits étaient séparés par un rideau. Troisième photo. Après ces 40 ans dans les airs, les Juifs sont enfin rentrés dans leur pays, et plus tard ils ont construit un temple pour remplacer la tente. Ce temple était le temple de Salomon. Alors de nouveau, l'intérieur du temple était aussi divisé en deux parties. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint, comme dans la tente. Prochaine photo. Ça c'est le lieu saint, la première partie. Il contenait la table des pains de proposition, un chandelier, l'autel de l'encens, on ne va pas parler de ces objets, simplement cet endroit. Mais notez qu'il y a un rideau derrière qui le sépare du lieu très saint. Alors, très bien. Ça, c'est le rideau qui sépare ces deux endroits. Et notez que le texte nous dit que ce rideau s'est déchiré à l'instant de la mort de Jésus du haut en bas. Mais pourquoi ? Ah, il faut savoir ce qu'il y a de l'autre côté de ce rideau. Allons-y. De l'autre côté du rideau, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'Alliance. Exode 25 nous en parle. Une boîte en or qui contenait des objets, les 10 commandements, un pot de manne et le bâton fleuri d'Aaron, On va parler de ces objets aujourd'hui. Ces objets liés à Moïse étaient dans cette boîte, couverte de ce qu'on appelle un propitiatoire. C'est ce couvercle sur lequel étaient montés en or deux anges. Vous voyez ces deux anges? Mais pourquoi? C'est quoi ça? Eh bien, le couvercle de l'arche s'appelait le propitiatoire car c'était là où Dieu se rendait propice ou accessible. Du fait qu'à cet endroit précis, il accordait sa faveur aux hommes en leur offrant le pardon des péchés. C'était quelque part cet endroit, juste entre ces deux anges, le siège de la présence de Dieu et de son pardon accordé aux hommes. Prochain. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à cet endroit n'était autorisé, écoutez bien, qu'une fois par année. Le jour des expiations, et par un homme seulement. Un jour, un homme. Toute l'année, le souverain sacrificateur. Le voilà. Regardez, tout autour de sa robe, en bas, il y a des cloches. Vous savez pourquoi? Parce que de rentrer dans la présence de Dieu en tant que pécheur, mes amis, ce n'était pas une mince affaire. Tant qu'on entendait les cloches, on savait qu'il était vivant. Quand on n'entendait plus de cloches, c'était assez mal passé pour lui. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Ils attachaient une corde à son pied. Parce que s'il mourait dedans, qui allait le chercher? Pas moi. Donc, on tirait avec la corde. Mais alors, avant d'entrer dans ce rideau, dans cet endroit, ce jour de l'expiation, que faisait-il? Alors, tenez-vous bien, c'est incroyable. Il faut tout lire ça dans Lévitique 16. Je vais vous le raconter. Avant de rentrer, il tuait un bouc, un animal. Ensuite, il saignait l'animal et prenait le sang dans un bol. Il traversait le rideau, enfin, il allait le rideau avec le bol, et il aspergeait le sang sur le couvercle. Et puis, il ressortait. C'est ce qu'il faisait, une fois par an. Vous dites, mais c'est quand même étrange. Pourquoi il faisait ça? Non, c'est pas étrange, c'est vraiment intéressant. Parce que c'était l'endroit où Dieu résidait. Et Dieu est totalement saint, on l'a entendu dans le récit plusieurs fois, il est trois fois saint. Absence de mal, absence de péché. Mais l'homme, quel est notre problème? C'est que nous sommes tous pécheurs. Comment est-ce qu'un homme pécheur peut vivre dans la présence d'un Dieu saint? Et le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Je devrais être mort pour mon péché. Mais Dieu m'aime. Et il nous aime tous. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a autorisé un substitut pour l'homme. Le bouc innocent était tué symboliquement à la place de l'homme. Le sang représentait sa mort. Et il apportait le sang à Dieu. Et Dieu voyait le sang et disait, « Ah, je suis satisfait. Ma justice est satisfaite parce que je vois le sang qui a coulé. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme devrait mourir, je vois le sang. » Ah oui, mais ce n'était pas le sang de l'homme, c'était le sang de quoi? D'un bouc. Et donc, c'était un substitut imparfait, c'était un animal. C'est pour ça que Hébreux 10 nous dit qu'il fallait répéter chaque année le jour des expiations. Le pardon était offert temporairement en attendant, alléluia, l'agneau parfait de Dieu, Jean 1, 29. Le Messie, le Fils de Dieu, qui lui viendrait, homme sans péché, et qui lui offrirait son sang, pas celui d'un bouc, pour toi et pour moi. Et maintenant, vous comprenez, Jésus est en train de pendre sur la croix. 3 heures d'obscurité. Jésus rend l'âme. Il meurt. Et à cet instant, le rideau se déchire. Pourquoi? Parce que le rideau qui nous séparait de la présence même de Dieu fut déchiré du haut en bas. Un homme l'aurait déchiré du bas en haut. C'est beaucoup plus simple. Non, du haut en bas. Et Dieu annonçait qu'à partir de cet instant précis, l'accès à sa présence était possible. que l'accès était grand ouvert. Pourquoi ? Parce que l'agneau parfait de Dieu a répandu son sang à la place. Mes amis, j'ai des frissons à y penser maintenant. Et c'est à cet instant de sa mort, l'agneau est mort à ma place et à ta place. Imaginez être un prêtre. Et tout d'un coup, le rideau se déchire et vous voyez l'arche de l'Alliance. La peur. Le bruit s'est répandu à Jérusalem. Le rideau vient de se déchirer. Tiens, étrange. Juste au moment que Jésus est mort, après 3 heures d'obscurité totale. Est-ce qu'il y a un lien ? Troisième phénomène surnaturel. La terre a tremblé. On est de nouveau dans Matthieu 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Il y a un tremblement de terre en plus. Alors nous savons que c'était un miracle aussi ce tremblement de terre parce que le timing est trop parfait, quoi. Puis je me dis que si le tremblement de terre était une coïncidence, alors franchement incroyable de croire que 3 jours plus tard, un autre tremblement de terre de coïncidence a eu lieu juste au moment où Jésus est ressuscité des morts. Et lorsqu'il va revenir dans Zacharie 14, 4, ce sera aussi une coïncidence qu'il y aura un autre tremblement de terre. Non, non, non. Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. C'est calculé. Dieu sait exactement ce qu'il fait. À la grande tribulation, à la fin des temps, il y aura le plus grand tremblement de terre de l'histoire du monde. Écoutez, Apocalypse, à la fin de la Bible. Apocalypse 6, et le verset 12. Je regardais, quand il ouvrait le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent de la terre comme les figures vertes d'un figuier, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées dans leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Mauvaise idée quand il y a un tremblement de terre au fait, hein. Et dans les rochers de montagne. Et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? Ça, ce sera au retour de Jésus. Mais vous voyez, à ces événements, Dieu, c'est comme s'il annonce par un tremblement de terre. Allez, on va secouer tout le monde. Pour qu'il se réveille. Mais pourquoi un tremblement de terre ? Écoutez, Ésaïe 24, 19 et 20. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. C'est un jugement. Le tremblement de terre illustre le jugement de Dieu. Ben oui, Dieu disait, c'est l'homme que je dois juger. Tu es pécheur, tu devrais mourir. Mais je déplace mon jugement sur l'agneau de Dieu. Donc c'est la colère et le courroux de Dieu qui a frappé Jésus par amour pour nous. C'est dingue quand même. 4. On l'a bien vu. Je vais vite. 4e phénomène surnaturel de la croix. Alors là, il faut vraiment se pincer pour comprendre celui-ci. C'est incroyable. Enfin, c'est facile à comprendre, mais c'est étonnant. Regarde. 27, 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Donc imaginez-vous, vous êtes dans un cimetière, là. Et tout d'un coup, toutes les tombes s'ouvrent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, vous savez pourquoi j'aime ce verset ? Parce que je me dis que si quelqu'un avait décidé, écoutez, on va écrire un livre religieux, d'accord ? Et on va essayer de faire passer ce livre comme le livre de Dieu. Donc on se met à plusieurs, on commence à écrire, on écrit la Bible, d'accord ? Et on fait passer ça comme un mensonge. Vous auriez mis ça, vous, dedans ? Non mais franchement, vous auriez mis ces versets ? Voilà, tout d'un coup, les tombes s'ouvrent, les gens ressuscitent et ils vont apparaître à des gens dans Jérusalem. Vous auriez jamais mis ça, c'est pas possible. C'est qu'un truc de Dieu, ça. C'est pas un truc des hommes. C'est pas possible que la Bible ne soit pas de Dieu. C'est trop incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Les sépulcres s'ouvrirent. Là où on mettait les corps des défunts. Deux, plusieurs corps des saints. Ça veut dire quoi ? Ben, les corps des saints. Des saints, ça veut dire des gens croyants, des sauvés, qui étaient morts, ressuscitèrent. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe ? Notre corps est séparé de notre âme. Le corps retourne à la poussière, on l'enterre, on l'incinère, et l'âme va auprès de Dieu si on est chrétien. Il ne va pas auprès de Dieu si on n'est pas chrétien, parce qu'on n'a pas été sauvé par Jésus-Christ. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, avant la fin des temps, eh bien, à ce moment précis où Jésus meurt, ses tombes s'ouvrent, et certains de ses corps ressuscitent, donc cette poussière de leur corps décomposé se remet ensemble. Ils sont ressuscités, recomposés, si je peux dire ainsi, encore nouveaux, et réunis à leur âme. Plusieurs, le texte dit, polus, qui veut dire beaucoup, un grand nombre. Beaucoup de gens ce jour-là sont ressuscités. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Moi, je crois qu'il devrait y avoir un point après sépulcre. Je crois qu'on le lit mieux comme ça, d'accord ? Étant sortis des sépulcres. Donc, on devrait lire verset 52, les sépulcres s'ouvrirent, il y avait plusieurs corps des saints qui étaient morts, ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Point. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, ils ressuscitent. Trois jours plus tard, bon, Jésus est enterré, il ressuscite. Et après la résurrection de Jésus, le dimanche matin, tous ces gens vont à Jérusalem et ils commencent à frapper aux portes de leurs amis et dire bonjour. Mais c'est vrai, c'est ce que le texte dit. Ils entrèrent dans la ville sainte, donc ils rentrent à Jérusalem. Et salut, c'est moi. Non mais, c'est dingue d'y penser. Je sais pas, vous êtes en train de faire des achats là, et tout d'un coup il y a votre ami qui est décédé il y a 5 ans en arrière. Tu réalises que c'est vraiment lui, apparemment il est ressuscité, tu as vu les événements, tu es un croyant, tu dis mais c'est dingue, oui c'est vrai que Jésus il avait prédit tout ça, il y a le tremblement de terre, il y a tout. Tu l'amènes à la maison, tu appelles ta femme et tu dis écoute chérie, je rentre à la maison avec un ami, tu vas pas croire qui c'est. Non mais c'est assez marrant d'y penser quand même. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils sont allés dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le mot peut dire se montrer ou bien aussi pour faire connaître quelque chose. Moi je pense ce qu'ils ont fait, puisque leur résurrection était liée à la mort de Jésus et le fait qu'ils sont à Jérusalem lié à la résurrection de Jésus, certainement qu'ils sont allés parler à leurs amis de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que maintenant, ils pouvaient dire, ben voilà, moi j'étais un saint de l'Ancien Testament, mais je peux vous dire, je suis aujourd'hui vivant à cause du Messie, Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus est vraiment le Messie. Christ est vivant, nous sommes vivants. C'est la preuve que vous, lorsque vous mourrez, vous ressusciterez aussi. Parce que la résurrection de Jésus-Christ donne la vie. Ah, j'ai de nouveau les frissons à y passer. Mes amis, est-ce que tu as peur de la mort ? Est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Si tu veux savoir, pose la question à quelqu'un qui en est revenu. Et Jésus en est revenu. Jésus est le seul chemin parce qu'il est ressuscité. Et c'est pour ça que j'ai mis ma confiance en Christ, parce que je sais que lui seul en est revenu pour nous dire. Et a ressuscité tous les autres avec lui. Et ceci mène au dernier phénomène surnaturel de la croix. Nous avons vu les ténèbres sont apparues, le voile s'est déchiré, la terre a tremblé, des corps ont ressuscité. Numéro 5, tellement génial. Le centenier s'est converti. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Écoutez, c'est quoi un centenier? C'était un soldat romain, un des responsables d'exécuter Jésus par crucifixion. Il avait tout vu, cet homme. La condamnation d'un homme juste par Pilate, son silence à l'égard de ses fausses accusations, sa flagellation, les moqueries à son encontre, la robe écarlate, la couronne d'épines, la croix portée par Simon et ensuite par Jésus, ensuite par Simon de Cyrène, les clous rouillés qui ont percé ses mains et ses pieds, les deux brigands crucifiés, l'un à droite, l'un à gauche de Jésus, les dernières paroles de Jésus, et ça on n'en a pas parlé, mais il y a eu sept paroles et sept choses que Jésus a exprimées de la croix, dont celle-ci où il dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, juste avant de mourir, demande au Père de pardonner ses bourreaux. C'est incroyable. Comme il avait, quelques instants avant, pardonné un des brigands qui lui a demandé de le pardonner. Il avait vu Jésus, finalement, dire « Tout est accompli » et à rendre l'esprit. Il avait aussi vu, pendant 3 heures, le soleil devenir obscur. Il avait aussi senti la terre trembler sous ses pieds juste au moment où Jésus rendait l'esprit. Et après avoir vu tout ça, cet homme, le centenier qui était avec lui et les autres gardes, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur. Vous savez pourquoi ils ont eu peur? Ils se sont dit, oh, on vient de tuer le Fils de Dieu. On sait que c'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils disent au verset 24, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Moi, je me suis posé cette question cette semaine. Si j'avais moi-même cloué les clous dans les mains et les pieds de Jésus, est-ce que ce péché est pardonnable? Vous dites, mais c'est un péché tellement énorme. Réponse. Oui. Tellement l'amour de Dieu est grand qu'il pardonne même celui qu'il a cloué à la croix. Alors je te pose une question pour conclure. C'est qu'il y a des gens qui se sentent trop pécheurs pour être pardonnés. Ils se disent, moi, mais c'est pas possible, regarde ma vie, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est toi aujourd'hui? Jésus est mort pour toi, pour t'offrir le pardon, aussi rapide que ça. Ces phénomènes miraculeux de la croix. J'espère que vous n'allez jamais les oublier. Numéro 1, les ténèbres sont apparues. Numéro 2, le voile s'est déchiré. Il nous a donné accès direct à la présence de Dieu. 3, la terre a tremblé. Des corps ont ressuscité. Mes amis, ce sera nous un jour. Moi, je me réjouis. Ça va être génial d'être ressuscité. Moi, j'ai hâte. Bon, il faut que je meure avant. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Mais je suis prêt, d'accord? Je suis prêt parce que je sais que je vais ressusciter. C'est ça l'espoir du chrétien. Et 5, le centenier s'est converti. Inclinons-nous. Nous allons avoir un morceau musical, inclinons-nous. Et j'aimerais juste... Moi je vous connais pas. Je ne connais pas toutes les personnes qui sont ici. Je ne connais pas l'état de votre cœur, mais Dieu le sait. Je ne sais pas ce qui vous a touché cet après-midi, ce qui vous a interpellé. Mais j'aimerais que vous pensiez au centenier. à cet homme. Aujourd'hui, comme lui, tu peux simplement dire Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Tu peux me pardonner. Parce que ton sang a été versé à ma place. Le voile a été déchiré. Je peux venir dans la présence de Dieu sans crainte maintenant. Je n'ai pas besoin de cloche et d'une corde autour du pied. Non, Seigneur, je suis pardonné par le sang de Jésus. Si ce n'est pas ton cas, je te supplie, demande-lui tout simplement, dis Jésus, aujourd'hui pardonne-moi mon péché. Ressuscite-moi. Donne-moi la vie éternelle. Et il le fera. Il le fera. Maintenant, si tu lui demandes.